Ce midi, au Radio-Journal, que reste-t-il à apprendre du budget fédéral? La réponse à 13h. Et octroi de contrat à la firme McKinsey, le gouvernement canadien n'a pas respecté les règles selon un ombudsman fédéral. Bonjour, ici Jean-Sébastien Bernatché. La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, s'apprête à déposer son budget dans un peu plus d'une heure. L'exercice promet bien peu de surprises cette année après les nombreuses annonces du gouvernement Trudeau dans les trois dernières semaines. Comme l'explique Juliane Lapointe, la principale inconnue porte sur l'ampleur du déficit.
On s'attend à ce que le déficit soit plus élevé que prévu. Le mois dernier, le directeur parlementaire du budget avait évalué qu'il devrait atteindre presque 47 milliards de dollars pour 2023-2024, soit 7 milliards de plus que ce que prévoyait le gouvernement l'automne dernier. Et on l'a vu, il y a eu une pluie de nouvelles dépenses annoncées au cours des trois dernières semaines qui dépasseraient les 18 milliards de dollars, ce qui pourrait accroître le déficit. Ce sera donc de voir cet après-midi quelle est l'ampleur du déficit et quel est le plan du gouvernement pour rééquilibrer le budget. Pour générer des revenus, Ottawa a l'intention d'imposer davantage les plus riches et de mettre en place de nouvelles mesures fiscales pour les grandes entreprises. Les libéraux interrogés ce matin sont restés vagues sur le contenu du budget. On peut entendre Jean-Yves Duclos et Jonathan Wilkinson.
Il y a beaucoup de gens plus aisés qui nous disent que c'est important d'investir pour aider ces familles.
C'est important que toutes les entreprises, tous les secteurs paient leur partie.
Les partis d'opposition s'attendent déjà à être déçus. Le Bloc québécois a dit qu'il n'allait pas appuyer le budget fédéral. Les conservateurs ont des conditions pour les libéraux, dont celle-ci qu'a répété encore le chef conservateur Pierre Poilievre ce matin.
Chaque dollar de nouveaux dépenses doit être accompagné avec un dollar d'économie pour équilibrer le budget.
La ministre des Finances, Chrystia Freeland, va déposer son budget à 16 heures. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa.
Et toujours dans la capitale canadienne, le bureau de l'Ombudsman de l'approvisionnement conclut que le gouvernement fédéral n'a pas respecté toutes les règles et bonnes pratiques lorsqu'il a octroyé certains contrats au cabinet conseil américain McKinsey. Thomas Gerbet a pris connaissance du rapport publié hier dans ce dossier.
L'ombudsman Alexander Yeglitch a passé au crible 10 ministères et agences du fédéral pour déterminer s'ils ont respecté les règles et les lois en signant des contrats avec McKinsey. Son rapport constate des changements de stratégie d'approvisionnement pour permettre la participation de la firme. Il note l'absence d'estimation des coûts avant d'entamer des discussions avec le cabinet conseil. Il évoque aussi une réévaluation des offres de manière à ce que McKinsey soit finalement seul soumissionnaire conforme et qu'elle obtienne le contrat. L'ombudsman écrit que cela donne une forte impression de favoritisme et constitue une menace grave à l'équité. Une enquête de Radio-Canada avait démontré que le recours à McKinsey avait fortement augmenté sous le gouvernement Trudeau, surtout après 2019. La firme a conseillé la Défense nationale, Immigration Canada, l'Agence des services frontaliers ou encore la Banque de développement du Canada. Une offre à commande avait même été signée avec McKinsey pour permettre des services en informatique jusqu'à la fin du siècle, en 2100. Ottawa a déjà accepté de revoir ses pratiques. Le gouvernement Trudeau a également réduit ses dépenses en consultants. De son côté, McKinsey a toujours affirmé avoir respecté les règles en vigueur. Une autre enquête de la vérificatrice générale est toujours en cours. Ici Thomas Gerbert, Radio-Canada, Montréal.
En Ontario, le gouvernement Ford alloue 1 milliard de dollars pour rénover les deux plus grandes centrales hydroélectriques de la province qui se situent dans la région du Niagara. L'objectif est de prolonger leur durée de vie de 30 ans. Voici Camille Grirois.
La province veut remettre à neuf les centrales Sir Adam Beck 1 et 2 situées à Niagara Falls. Ce complexe compte pour environ 9 % de toute l'électricité produite en Ontario chaque année. La société d'État Ontario Power Generation, qui l'exploite, a signé un contrat avec la multinationale GE Vernova pour rénover les installations. Les travaux devraient commencer en 2025 et s'étaler sur 15 ans. L'Ontario tente ainsi de répondre à la demande croissante en électricité, demande qui pourrait plus que doubler d'ici 2050, selon la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité. La province s'est aussi récemment lancée dans un projet de remise à neuf de 4 réacteurs nucléaires à la centrale de Pickering, à l'est de Toronto, et se penche sur l'expansion de sa centrale nucléaire de Bruce. Le gouvernement Ford mise aussi sur la technologie des petits réacteurs modulaires. L'Ontario continue par ailleurs de compter sur le gaz naturel dans son plan énergétique. Ici Camille Grirois, Radio-Canada, Toronto.
Léger rebond de l'inflation au pays en mars, l'indice des prix à la consommation est passé d'une année à l'autre de 2,8 % en février à 2,9 % le mois dernier. Les prix de l'essence, du logement et des services ont contribué à cette hausse d'un dixième de point. Les réactions se multiplient au lendemain de l'annonce de Radio-Canada de ne pas diffuser le grand spectacle de la fête nationale de l'Acadie le 15 août. Ce spectacle aura lieu à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, dans le cadre du Congrès mondial acadien. Louise Imbeau a été directrice de Radio-Canada Acadie et présidente de la Société nationale de l'Acadie. Elle dénonce la décision du diffuseur public.
Je suis vraiment très déçue et désolée parce que je pense que le moment du Congrès mondial acadien, c'est un grand moment de rencontre pour la diaspora acadienne. Et c'est aussi un grand moment pour montrer un peu où on en est rendu dans notre développement culturel. Ce sont de grands artistes, des artistes qui ont une grande notoriété, qui vont se présenter là pour le spectacle du 15 août. Alors, il me semble que ça devrait être diffusé au même titre que la fête nationale des Québécois ou la fête nationale canadienne.
Radio-Canada affirme avoir pris cette décision en raison des compressions budgétaires à venir au sein du diffuseur public. Le cabinet de guerre d'Israël s'est de nouveau réuni pour parler d'une éventuelle riposte contre l'Iran. L'État hébreu affirme qu'il y aura des représailles à l'attaque iranienne lancée samedi soir, mais le moment et la teneur de la réponse restent à déterminer. Pendant ce temps, des alliés des deux pays continuent d'appeler à la retenue. Éric Plouffe a préparé ce qui suit.
We cannot stand still from this kind of aggression.
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression, lance le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari à propos de cette attaque lancée par l'Iran contre Israël. Lors d'une visite organisée pour les journalistes sur une base militaire dans le sud d'Israël, il a ajouté que son pays répliquera au moment, à l'endroit et de la manière qu'il aura choisi.
We will respond in our time, in our place, in the way that we will choose.
Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part mis en garde Israël et l'Iran contre les conséquences catastrophique de toute nouvelle escalade lors d'un entretien avec son homologue iranien Ebrahim Raisi. Les États-Unis ont pour leur part prévenu qu'ils n'hésiteraient pas, avec leur allié, à renforcer les sanctions envers l'Iran. Pendant ce temps, la guerre se poursuit à Gaza, toujours menacée par la famine.
Israel continues to impose unlawful restrictions.
Les Nations unies ont dénoncé le fait qu'Israël impose toujours des restrictions illégales sur l'acheminement d'aide humanitaire dans ce territoire assiégé depuis plus de 6 mois.
There must be an immediate ceasefire.
Il faut un cessez-le-feu immédiat, a répété l'ONU par l'intermédiaire d'une porte-parole, Ravina Hamdassani, la libération de tous les otages, et il faut aussi que l'aide humanitaire puisse être acheminée immédiatement sans restriction dans la bande de Gaza. Éric Plouffe, Radio-Canada, Montréal.